Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Les mousquetaires sont là. Nous avons dîné ensemble jeudi soir. C'était bien. Non, mais c'est vrai.
Non, mais bien sûr.
Bon, on dirait qu'il n'y a que moi qui ai apprécié. Vous étiez tous là. Mais dites aux téléspectateurs à quel point
on
c'était bien.
Triste, ce soir.
Et nous avons bien mangé. Et nous avons bien bu.
Mais va vous rendre compte. Ben non, vous avez nos amis qui sont là au rendez-vous et vous dites, mais nous, on se tape la cloche, etc.
Non.
On fait bonbons.
Non.
Enfin.
Non, on partage avec
carême.
Le téléspectateur qui nous regarde tous les soirs.
Oui,
il
bah
aime
oui.
quand on lui raconte ce qu'on fait quand le générique de fin est lancé. D'ailleurs, vous êtes à l'apéro. Installez-vous. Simon Guilin, la Minute Info.
Bonsoir, cher Christine. Chers téléspectateurs, les enquêteurs examineront le corps d'Alexeï Navalny pendant au moins 14 jours. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi le porte-parole de l'opposant au Kremlin. Alexeï Navalny est décédé vendredi dernier dans une prison russe. Et aujourd'hui, sa veuve Yulia Navalnaya a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui affirme que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Ils ont manifesté aujourd'hui à Dunkerque, dans la Marne ou encore à Marseille pour manifester leur mécontentement. Emmanuel Macron reçoit demain à l'Élysée les syndicats agricoles majoritaires. Et puis Gérald Darmanin a récompensé les policiers qui sont intervenus lors de l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur a remis la médaille du courage et du dévouement à 9 fonctionnaires de police. Tous sont intervenus au lycée Gambetta pour maîtriser un jeune homme radicalisé qui venait tout juste de tuer le professeur Dominique Bernard, cher Christine.
Merci mon cher Simon Guilin, de retour. Welcome back. En français dans le texte. Au sommaire ce soir, l'entretien accordé par Emmanuel Macron à l'humanité ne passe pas inaperçu. Beaucoup de lecteurs s'étonnent que le président de la République veuille sortir de l'arc républicain. Le RN reconquête plus de 13 millions d'électeurs et qu'il le fasse dans l'humanité. Journal anciennement staliniste qui accuse aujourd'hui Israël de génocide. En quoi cet entretien démontre-t-il la crise politique majeure que nous vivons ? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Alors que le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est rendu à Menton, il en a profité pour présenter à la presse ici le numéro 2 de sa liste aux européennes, Fabrice Leggeri, ancien patron de l'agence Frontex. Il avait démissionné en avril 2022 de la direction exécutive de Frontex après l'ouverture d'une enquête disciplinaire. On l'accusait de s'être montré déloyal vis-à-vis de l'Union européenne. Est-ce un coup politique réussi ? L'analyse de Guillaume Bigot. Gérald Darmanin demande l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi. Plusieurs signalements ont eu lieu à son encontre depuis plusieurs mois. Il a été signalé par le préfet du Gard cette semaine après des prêches anti-France. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique, a-t-il notamment déclaré. Plusieurs imams se désolidarisent de ces propos qui ne sont en rien alignés avec le Coran. Que comprendre ? Le regard de Marc Menon. À Mayotte, c'est toujours le chaos. Si Gérald Darmanin a annoncé des mesures qui font réagir, on reste au stade des annonces pour l'instant. Mais un pays a de son côté réagi, la Russie. Moscou se dit prêt à aider les Comores pour récupérer Mayotte. Afin que l'île française revienne donc sous la souveraineté des Comores. Comment comprendre cette nouvelle donne ? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis un hôpital anglais déclare qu'une femme trans, c'est-à-dire un homme biologique, peut produire pour un enfant un lait aussi valable. Le lait médicamenteux de femmes transgenres, né donc de sexe masculin, est aussi bon pour les bébés que le lait maternel. Là aussi, que comprendre ? L'édito de Mathieu Bock-Côté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires qui sont en forme ce soir. C'est parti. Je vous prends par surprise. Vous avez mangé quoi à notre dîner, mon petit coquin Guillaume ?
J'ai mangé une des meilleures soles de Paris.
Oh, et vous, mon cher Mathieu ? Mon cher Marc. je viens à Mathieu.
C'était de...
Lui, il n'a rien mangé. Il a pris une soupe.
Non, j'ai pris un petit poisson avec un riz, je sais pas quoi. C'était très
simple. C'était un riz basmati, j'ai pris comme vous.
Voilà.
Et vous, Mathieu ?
J'ai bio.
Voilà. D'abord, moi, j'ai pris une entrée, c'était du saumon fumé. Et ensuite, j'ai pris une blanquette de veau. Et pour dessert, des glaces. Et il y avait du vin. Je vais quand même pas...
À consommer avec modération. De toute façon, vous n'auriez pas dit ça que j'aurais dit, hein, tout ce que vous avez pris.
J'espère bien. Vous me croiriez si je dis que je mangeais que des légumes.
Et vous avez voulu partager votre glace. Alors, avec moi, vous étiez gentil.
Je dirais que vous me l'avez volé, mais avec tant de tendresse.
Voilà, vous savez tout, chers amis. C'est dans les pages de l'Humanité, le quotidien communiste, qu'Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer, alors que la France panthéonise Manoukian, symbole de la résistance communiste étrangère. Et il en a profité pour clarifier sa doctrine par rapport à ce qu'il appelle les extrêmes, en plus de mettre à jour sa vision du combat contre ce qu'il appelle... l'extrême droite. En quoi, Mathieu Bock-Côté, cet entretien va-t-il plus loin que ce qu'en a retenu la presse en général aujourd'hui?
Ah oui, c'est un entretien qui va très loin, qui couvre, en fait, qui a une fonction très claire sur laquelle nous reviendrons, et qui va au-delà de la seule question du RN hors arc républicain. Alors, la première chose à dire, et je pense qu'on l'a insuffisamment souligné, sauf peut-être sur cette chaîne, c'est qu'il parle à l'humanité. L'Humanité, c'est un quotidien qui, historiquement, s'est ancré dans le totalitarisme, qui a soutenu Staline. Je tiens à le rappeler parce qu'on rappelle toujours l'origine d'autres partis politiques, d'autres mouvements, d'autres courants. Donc soutenir Staline, c'est quand même ambitieux à l'échelle de l'histoire. C'est quand même soutenir un tyran absolu, totalitaire, qui est à l'origine de millions de morts. Il faut quand même le rappeler. Pour moi, donner un entretien... à l'UMA, c'est un peu comme donner l'équivalent un entretien à ce qu'on a un quotidien qui s'appelait autrefois Présent, qui n'existe plus, qui par ailleurs, je le précise, c'est un quotidien national catholique, qui était autoritaire si on le veut, mais qui a certainement jamais soutenu des régimes totalitaires qui ont fait des millions de morts. Donc, faut quand Emmanuel Macron décide d'aller parler à l'humanité, il nous dit que l'UMA, en fait, les communistes et leurs millions de morts appartiennent à l'arc républicain. Je pense que c'est un fait qu'on doit mentionner d'abord et avant tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans cet entretien ?
120 ans.
Ah oui, non.
Vous m'aviez dit cet après-midi que ça fait 120 ans qu'un chef de l'État n'a pas parlé.
Enfin, oui, c'est tout à fait noté. En fait, c'est dans l'histoire de l'humanité, jamais d'entretien avec un chef de l'État. Et là, c'est fait. Donc, pourquoi l'union sacrée, en fait, contre l'extrême droite qui monte, si j'ai bien compris ? Parce que c'est un fait, c'est en fait l'enjeu de cet entretien. Évidemment, le point de départ, c'est le référent historique. Et on se dit, est-ce que le RN doit être présent au moment de la célébration de la résistance communiste étrangère? Et on dit, Emmanuel Macron dit, je suis obligé formellement d'inviter les gens du RN, parce que vous savez, ce sont des députés élus par la nation. Donc, l'arc républicain, ils n'en sont pas, mais le peuple, on doit en tenir compte, du moins faire semblant. Ah, mais c'est compliqué d'être républicain. Et on nous dit, mais là, il sort un concept pour expliquer pourquoi le RN ne devrait pas être présent, c'est l'esprit de décence. L'esprit de décence. Alors, pour ce que j'en sais, Manoukian, ça fait partie de la résistance contre l'occupation allemande. Est-ce que quand on pense à l'héritage de la résistance, on doit sectionner cet héritage en disant, lui, on peut le célébrer, lui, vous avez le droit de le célébrer, lui, vous n'avez pas le droit de le célébrer? Je veux dire, à ce que j'en sais, le général de Gaulle, qui a fait de la place à tout le monde dans la résistance, est un général passé par l'école d'action française en partie. Je tiens simplement à le rappeler par souci historique, non pas pour célébrer cet héritage, mais pour le rappeler. Donc, et ensuite, vous savez, il tenait tellement à l'indépendance de sa patrie qu'il a tendu la main aux communistes. Il a tendu la main à peu près tout le monde. Le temps de faire la libération du pays, et après la guerre, qu'est-ce qu'il faisait? Il traitait les communistes de séparatistes. Il disait, vous êtes contre l'unité nationale. Donc, si on décide de dire, vous avez le droit de célébrer cette personne, mais pas celle-là, et la commémoration pour lui, mais pas pour lui, il risque d'y avoir beaucoup de tri commémoratif. Ça va encore plus loin, et là, on touche à la question des extrêmes. Alors, on nous dit, parce qu'on pose la question à Emmanuel Macron, oui, il y a des extrêmes chez LFI, mais ce sont des cas individuels. Alors que pour le RN, il est structurellement dans l'extrême, il est structurellement coupable et anti-républicain. Parce qu'on le sait, si on se réfère aux origines du parti, il est fondamentalement anti-républicain. Mais les origines de l'humanité, question de trop, je laisse ça de côté, je reviens. Le fait que le Parti communiste, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier, hein, avant que l'URSS ne soit envahi par l'Allemagne nazie, le Parti communiste n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler un modèle de l'éthique de la résistance contre l'occupant. Je tiens seulement à le rappeler aussi. C'est peut-être pas un détail. Quoi, l'histoire de la résistance communiste, c'est quand même une blague à bien des égards. Ça compte à partir de 1941, mais avant ça, c'est quand même plus nuancé. Quoi qu'il en soit, on demande à Emmanuel Macron, mais comment expliquer la présence du RN, la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite? Et il donne sa réponse. À qui la responsabilité? Je vais le citer un instant. Des politiques très à gauche menées dans les années 80 ont conduit à l'entrée à l'Assemblée du Front National, résolument antisémite et négationniste, ce que n'est plus ouvertement le RN. Tout cela doit conduire à l'humilité. Alors, il y a deux choses à dire ici. La première, c'est qu'ils nous disent du RN qu'il n'est plus ouvertement antisémite et négationniste. J'en conclus qu'il l'est secrètement, si je prends au sérieux les mots. Donc, si on avait la chance de poser une question à Emmanuel Macron, on dirait, pour vous, j'en conclus donc, que le RN est pas ouvertement, mais secrètement et clandestinement antisémite et négationniste, premièrement. Ensuite, sur le plan factuel, j'aimerais me rappeler que c'est faux. Le point de détail, on le connaît dans le discours de Jean-Marie Le Pen, qui va entraîner le basculement de ce parti hors des ententes possibles, on sait, c'est postérieur à l'entrée du RN à l'Assemblée nationale en 86. En 86, quand le RN entre à l'Assemblée nationale, la question du détail, entre guillemets, le dérapage tragique et inqualifiable de Jean-Marie Le Pen, c'est postérieur. Donc, il faut quand même le garder à l'esprit. Même la manière de raconter pourquoi le RN rentre à l'Assemblée nationale à l'époque, ce n'est pas du tout sous le label. La question du négationnisme ne se pose pas pour le RN à ce moment-là. Et la question de l'antisémitisme, pas vraiment, à tout le moins pas tant que ça. Donc, quoi qu'il en soit, il raconte les événements de manière un peu étrange. Alors, par ailleurs, Emmanuel Macron nous dit « Je suis, quant à moi, aujourd'hui, le défenseur de la démocratie, de l'état de droit, contre la montée de l'extrême droite partout en Europe. » Et comment explique-t-il ça, cette montée de l'extrême droite partout en Europe maintenant? « Beaucoup de ses électeurs, dit-il de l'extrême droite, considèrent l'Europe comme un monde trop ouvert, trop compliqué. » Et ça, ils sont un peu sots. « Donc, la formule magique serait le retour au nationalisme. » Donc, le retour à la souveraineté nationale qui primerait sur le droit européen, le retour aux frontières, la conscience de l'identité nationale, c'est la pensée magique qui serait le retour au nationalisme. Mais Emmanuel Macron, vous savez, c'est quand même le roi du « en même temps ». Donc là, il prend néanmoins, dans cet entretien, la responsabilité de dire, parce qu'on lui dit « vous êtes quand même complice de l'extrême droite, monsieur le Président. Vous parlez comme l'extrême droite ». Et on lui dit, par exemple, « vous parlez comme Barrès quand vous dites « une nation, c'est un tout organique ». Et là, il répond « vous savez, Barrès, oui, mais dans les faits, c'était le même langage que Jaurès et Péguy. » Et là, c'est intéressant. Donc, finalement, on a le droit, nous aussi, de dire la nation, la terre et les morts, nation organique, parce qu'on parle comme Péguy, comme Jaurès, comme Barrès tout à la fois. L'histoire serait plus complexe que le grand récit qui nous en est livré dans Libé. C'est intéressant. De la même manière, il nous dit il faut prendre au sérieux la lutte contre l'immigration illégale. Et je note que l'humanité s'y oppose dans le texte. L'humanité dit, si vous êtes véritablement fidèle à l'héritage de la résistance communiste étrangère, vous ne devez pas résister à l'immigration clandestine qui aujourd'hui arrive en France. Donc vous comprenez, l'héritage de la résistance anticommuniste doit nous conduire à accepter l'immigration illégale en France. C'est d'une puissance conceptuelle chez nos amis communistes. Et au dernier moment, je le note, dans cet échange un peu tordu, eh bien, Emmanuel Macron dit, oui, il faut prendre la question de la lutte de l'immigration au sérieux, mais pas en soi, parce qu'elle provoque la montée du RN. Donc, c'est pas la lutte contre l'immigration ou l'immigration illégale qui motive Emmanuel Macron dans cette question. Il dit, la vraie raison, c'est la montée du RN, de l'extrême droite. Et pour ça nous fait penser à l'argument d'Olivier Véran, qui disait, c'est formidable le modèle danois pour gérer l'immigration, parce que là-bas, ça fait baisser l'extrême droite.
Alors, revenons à tout cela de manière politique. N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale entre Gabriel Attal, qui affirme que l'arc républicain recoupe l'Assemblée nationale, et ce que dit Emmanuel Macron ici aujourd'hui?
Et vous avez tout à fait raison. Et je note que ceux qui l'ont vu aussi, ce sont les journalistes de l'UMA. Ils disent un instant, ils sont capables de réfléchir quand même à leur manière. Donc ils disent, il y a d'un côté, et Gabriel Attal qui dit, si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes dans l'arc républicain. C'est un propos de simple bon sens, mais qui est contredit explicitement ici par Emmanuel Macron, qui nous dit, et ça c'est une chose très très importante, dans l'entretien de l'UMA, on nous dit, quand on s'oppose à la présence du RN à l'Assemblée pour la cérémonie pour Manoukian, on dit ce sont les héritiers des bourreaux de Manoukian qui seraient présents. Et Emmanuel Macron ne répond pas. Donc, on laisse présenter le RN comme les héritiers des nazis et des fascistes. Et le président de la République, qui n'avait probablement pas le temps de répondre, oublie de répondre à ceux qui nazifient ainsi ses adversaires. Mais il y a une logique derrière ça. Si vous êtes devant les nazis, si vous êtes devant les fascistes, eh bien ça justifie l'état d'exception. L'état d'exception, c'est on soulève les règles ordinaires du droit, on soulève les règles ordinaires de la démocratie libérale pour empêcher les fascistes et les nazis de prendre le pouvoir et de bouleverser la France et de saccager la France. Et qu'a fait le président de la République dans cette réponse-là? Il justifie l'état d'exception à venir s'il le fallait pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc ça permet de faire plein de choses. Par exemple, de menacer de fermeture une chaîne télé, par exemple. Comme ça. Ça justifie les procès pour délit d'opinion à répétition contre certains chroniqueurs et politiques. Ça justifie le fichage des journalistes. Il faut savoir qui est dans la conspiration contre la République. Il faut quand même les ficher, ces gens-là. Ça justifie aussi, plus largement, la tentation d'exclure du jeu politique ceux qui menaceraient la République. Donc derrière le fait, quand le président de la République ne corrige pas ceux qui nazifient et qui fascisent Marine Le Pen et Reconquête, soit dit en passant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il légitime l'état d'exception, théoriquement, si jamais ses adversaires sont trop forts.
10 secondes pour ma dernière question. Finalement, que retient-on de cet entretien d'Emmanuel Macron à l'Humanité? Moralité?
En un mot, d'abord que c'était à l'Humanité. À un moment donné, il faut quand même être sérieux. On décide d'aller parler chez les héritiers du totalitarisme communiste, premier élément. Deuxième élément, la mémoire de l'antifascisme est revendiquée par la gauche pour justifier l'immigration massive et clandestine. Troisième élément, Emmanuel Macron se présente comme la digue antifasciste de notre temps, ce qui veut donc dire qu'il y a des fascistes devant nous. Et dernier élément, et ça c'est assez important, il y a un petit passage sur la question du droit, en passant. Le droit sur l'information. Il dit justement, oui, je m'inquiète de ce que devient le paysage médiatique en France. Voilà pourquoi j'ai confié à Christophe Deloire la responsabilité des états généraux de l'information pour être capable de trouver un modèle économique, un modèle informationnel nouveau pour la France. Nous savons que M. Deloire est à l'origine, évidemment, de la requête de RSF pour, dans les faits, faire fermer CNews. Il fait partie du parti des ficheurs de journalistes. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas un détail de mentionner cela dans les circonstances présentes.
Mais par ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une chronique entière sur la présence du Parti communiste à l'hommage rendu à Manoukian, puisqu'il y a une énorme question sur le comportement du Parti communiste vis-à-vis des communistes étrangers et résistants qu'ils ont eux-mêmes accusé le Parti communiste français de les avoir abandonnés. Donc je veux dire, si on rentre dans ces détails-là, je veux dire, on peut interroger, et j'ajoute ça à toutes les questions déjà qu'a posé Mathieu, sur la question de est-ce que la commémoration à l'échelle d'un pays sert à rassembler le pays, ou est-ce que systématiquement c'est des procès à géométrie variable pour mieux, alors là pour le coup, pour mieux les instrumentaliser réellement sur la période politique présente? Et on voit que là c'est la manœuvre et la manipulation a quand même des limites. Oui.
J'irais non pas à contresens, je dirais que quand même les communistes ont été des grands résistants à partir de 1941. Il ne faut pas qu'on se trompe sur le propos.
Si je peux me permettre, après, l'URSS s'était attaqué, pas avec la France.
Oui, mais il y en avait déjà un certain nombre qui s'étaient mis en dissidence, il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr.
Non, mais c'est important. L'autre point qui est quand même affligeant, c'est ce procès qui est fait à des journalistes, à des gens qui sont professionnels depuis des années, qui jusque-là étaient qualifiés simplement de travailleurs de l'information et qui n'avaient jamais été remarqués avec des lignes rouges. Et puis soudain, parce qu'ils travaillent dans une chaîne, ils deviennent infréquentables. Qu'ont-ils tenu comme propos? Rien. Ils ont fait leur métier en essayant d'avoir l'analyse la plus objective qui soit. Il peut y avoir des différences de valeurs dans la hiérarchie des informations, mais ça n'a rien à voir avec le fait de faire son métier en intégrité, intellectuellement, inattaquable. C'est inouï d'entendre cela et répéter de façon constante. Ça devient une sorte d'atteinte qui est une condamnation de professionnels et c'est inadmissible de la part d'un président de la République.
Je vais ressortir dans un instant les propos de Roch-Olivier Maistre, le président de l'ARCOM, dans un instant, mais je vous fais réagir peut-être vous aussi à l'Humanité et au président du.
Écoutez, cette histoire d'art républicain est quand même absolument stupéfiante, parce que si le mot république a un sens, c'est quand même le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça la base de la République. Et l'une des libertés fondamentales, c'est le droit de vote. Et le droit d'un peuple à se gouverner lui-même. La République, c'est aussi la différence entre les citoyens et les non-citoyens. Donc je ne connais pas, depuis le 21e siècle, de machine de guerre plus redoutable, plus sournoise et plus annihilatrice, plus destructrice de la République et des valeurs de la République, un désherbant plus efficace de la République que la construction européenne. Cette expression de souveraineté européenne, c'est évidemment une mise à mort de la République.
Je vais rebondir sur vos propos, Marc Menant, parce que je ne pensais pas qu'on aurait le temps, mais arrêtons-nous juste un instant sur les propos du président de l'ARCOM pendant ce week-end, qui refuse le fichage individuel, mais parle d'une appréciation globale. Alors, je cite par exemple, le pluralisme de l'information ne se résume pas au seul pluralisme politique, il faut l'apprécier en prenant compte l'ensemble des participants, les chroniqueurs, les animateurs, les invités, dit le président de l'ARCOM. Il dit encore, l'ARCOM n'est ni la police de la pensée, Mathieu Bocoté, je vous ferai réagir, ni un tribunal d'opinion. La loi de 86 est d'abord une loi de liberté qui consacre la liberté de communication et la liberté éditoriale. Je le dis depuis 4 ans et demi. Dernière réaction, cette décision ne concerne pas seulement CNews, mais l'ensemble des médias audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés. Réaction sur la liberté de penser.
En démocratie libérale, elle devrait être maximale. Et dès lors qu'on se rapproche de la possibilité d'une fiche, on la quitte. Premier élément, pour ce qui est du contexte global auquel fait référence Roch-Olivier Maistre, j'essaie de savoir comment ils veulent l'apprécier. Ça m'intéresse vraiment de savoir de quelle manière on va définir ce contexte global au-delà de la loi présente.
10 secondes.
Non, mais c'est surtout pour dire qu'on va étudier de manière globale et par ailleurs rappeler, mais c'est d'ailleurs dans le Conseil d'État, il y avait déjà cette contradiction, enfin dans la décision, et par ailleurs rappeler la liberté éditoriale. La liberté, une ligne éditoriale pour un média, c'est précisément une approche globale, éditoriale, dans laquelle s'insèrent en effet des temps de parole obligatoire pour les hommes politiques, pour que les Français puissent voter en conscience, en ayant eu accès à la parole de tous les gens qui se présentent à eux le jour de l'élection. Je ne vois pas où on peut aller plus loin sans risquer, en effet, de marcher sur la liberté.
À propos de vote, est-ce que les journalistes, tels qu'ils soient, ne devront plus se rendre dans les urnes, mais voter devant le public pour qu'on sache quelle est leur couleur politique?
Ils n'ont plus droit à l'isoloir, en fait. Les chroniqueurs n'ont plus droit à l'isoloir, c'est très important. Ils n'ont plus le droit de changer d'avis, d'ailleurs. Ils n'ont plus le droit de penser contre eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'être de temps en temps de gauche sur certains sujets, de temps en temps de droite sur certains sujets. Ça, c'est interdit. Donc ça veut dire que cette organisation saura mieux que nous ce que nous pensons.
Oui, et moi, je soumets deux cas. Est-ce qu'il va y avoir la possibilité pour quelqu'un qui est mal étiqueté, c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas dans l'étiquette que les autorités administratives lui collent, est-ce qu'il va avoir une forme de tribunal d'appel, premièrement? Deuxièmement, qui seront les juges responsables de fixer l'étiquette des uns des autres? Si on évolue sur une position, est-ce qu'on devra déposer un CV, une mise à jour de nos positionnements pour être évalué par le comité des pairs, décidant dans quelle catégorie on doit être fiché? Ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais être sur la catégorie des ficheurs, c'est possible. Parce que s'il y a des fiches, moi aussi je veux ficher les gens, comme ça on va voir si c'est vraiment démocratique.
C'est un peu la rançon de la gloire aussi, c'est parce qu'évidemment la chaîne monte et qu'elle gêne, et bien sûr tout le monde a compris, quand vous assassinez Navalny, c'est bien sûr parce qu'il est gênant. Quand vous essayez d'éteindre une chaîne, c'est parce qu'elle est gênante.
Oui, le rapprochement est un peu délicat. Certains le font.
Bien évidemment,
en tout cas, on voit là le bon sens du président de l'ARCOM, même s'il nous a mis quelques petites amendes quand même, mais on voit le bon sens du président de l'ARCOM. Je vais vous faire écouter un petit sonore. Écoutez et on en parle après.
Je rejoins la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement National parce que je crois que le 9 juin, c'est la réponse utile pour remettre la France et l'Europe sur la bonne voie. Jordan Bardella a expliqué comment nous devons effectivement reprendre le contrôle de nos frontières, la frontière européenne, la frontière extérieure européenne et la frontière française au niveau national. Et donc j'apporterai mon expérience, mon savoir-faire.
Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce qu'il apportera effectivement son expérience? Est-ce un coup réussi pour le Rassemblement national? On en parle avec vous, on marque une pause et on en parle tout de suite avec vous. Parce que ce n'est pas n'importe qui quand même. Hein. On en
avec
parle.
Plaisir.
Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, on le disait tout à l'heure, s'est rendu à Menton aujourd'hui, comme régulièrement, mais cette fois-ci accompagné de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'agence Frontex, qui l'a profité pour présenter à la presse. C'est le numéro 3 de sa liste sur les européennes. Est-ce un coup politique réussi selon vous?
Si vous me passer la métaphore un peu osée, ça aurait pu même être un coup de menton extrêmement extrêmement brillant. L'effet était un peu atténué par l'histoire de du drapeau tricolore satanique là, donc l'effet médiatique a été un petit peu atténué, mais c'est quand même un coup très fort. D'abord, Un, c'était intéressant de se déplacer sur cette frontière franco-italienne à Menton, parce que c'est une frontière qui est débordée, l'Italie étant débordée, nous sommes nous aussi débordés. Le gouvernement a tenu à renforcer, bon, il y aurait une frontière qui a été rétablie depuis 2015, renforcer les moyens, déployer des soldats sentinelles, etc. Le président du RN, comme d'ailleurs Éric Ciotti, sont rendus sur place pour dire aussi qu'il y a une décision très importante du Conseil d'État du 2 février dernier qui rappelle que la frontière n'existe plus, en fait, qu'il faut revenir vraiment à l'épure de Schengen. C'était une exception depuis Bataclan. Donc il n'y a plus de frontière. Il faut en revenir à ce qu'on appelle la directive retour votée en 2008, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refouler des gens à une frontière européenne. Le principe, c'est la liberté de circulation. On ne peut pas les refouler du simple fait qu'ils n'ont pas de titre et qu'ils sont clandestins. En tout cas, si on les refoule, il faut leur laisser suffisamment de temps en quelque sorte, pour encaisser le choc. Alors, plusieurs du temps, parfois une semaine, on ne peut pas les mettre dans des centres de rétention administrative. En fait, la frontière est une passoire. Voilà, c'était pour ça déjà que ce déplacement était important. Mais ensuite, le fait de présenter cette prise de guerre, entre guillemets, comme on dit, de Fabrice Leggeri, ça appuyait le propos, ça appuyait la démonstration. Parce que qui est M. Leggeri ? C'est quelqu'un qui, depuis 2015, a occupé des fonctions très importante au sein de l'Union européenne, l'agence Frontex était chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Europe. On nous dit on n'a plus de frontières à l'intérieur, mais il y a des frontières à l'extérieur, les frontières de Schengen. Alors, on va mettre des moyens satellitaires, on va mettre des drones, on va mettre des gardes-côtes armés, et vraiment, vous allez voir les gens, c'est pas grave, il n'y a plus de souveraineté, puis c'est la souveraineté européenne, c'est l'État européen qui vous protège, notre Europe qui vous protège. Ah oui, mais sauf que lui, il était aux premières loges, et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur ? Bah, il dit, écoutez, c'est simple, hein, pour l'Union européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'était un projet. Alors là, évidemment, on tombe des nues quand même. Et c'est pour ça que ce coup est très fort. Et il raconte, qui veut l'entendre, que lorsqu'il a pris son job au sérieux de surveillance des frontières en refoulant des migrants clandestins pour éviter à l'Europe la submersion migratoire, on lui a tiré l'oreille. On lui a dit attends, mon petit gars, là, t'as pas bien compris. En fait, ça, c'est pour la galerie, c'est pour les médias, c'est un affichage. En vérité, ce qu'on te demande, c'est de bien accueillir les migrants. En fait, l'Europe, elle est vieillissante. D'accord ? Donc, tu fais partie des gens sérieux, là. On va pas faire du populisme de bas étage. Ça, le peuple, populo, la République, tout ça, c'est un truc de bas de plafond. Nous, on est avec des gens sérieux. Donc, l'Europe, elle a besoin, elle est vieillissante, elle a besoin de migrants. Et en fait, il a été complètement lâché. Alors, Madame Johansson, fameuse Madame Johansson, qu'on cite souvent ici, ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur de l'Europe, la commissaire européenne aux affaires intérieures, elle l'a remis à sa place, mais également la présidente de la Commission. Et ni l'Allemagne, ni la France ne l'ont soutenu. Donc je pense qu'effectivement, c'est très fort comme ralliement, et ça dénonce surtout le double discours, et notamment le double discours de Renaissance, qui est en lice aussi pour les européennes.
Alors Fabrice Leggeri, c'est vrai, c'est un énarque, mais n'est-ce pas un peu le seul haut fonctionnaire du Rassemblement National ? Il a aussi été très critiqué, lui.
Bah oui, il est pas à l'abri de toute critique, et même il est sous le feu des critiques depuis qu'il a pris position contre sa gouvernance en quelque sorte, et depuis qu'il s'est mis un peu en travers de la route de la présidente de la Commission, de la commissaire aux affaires européennes, etc.
Raquel Garrido, par exemple, ce week-end disait que c'était celui qui a laissé mourir des milliers de migrants dans la Méditerranée.
On lui a reproché beaucoup de choses, et on lui a reproché notamment de dénoncer le rôle pas clair que jouent les ONG. Mmh. Il a rendu public des images, notamment des images satellitaires, aux images de drones, où on voit qu'en fait, les associations de migrants avec les passeurs se mettent d'accord. Et voilà, donc il a apporté cette preuve-là. Et il y a trois, vous savez, c'est l'adage, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Donc il y a trois enquêtes qui ont été lancées par l'organisme antifraude, l'OLAF européen. Et aucune de ces enquêtes n'a été jusqu'au bout. Il n'y a rien, c'est totalement vide. Donc ça a fait pchit. C'est quelqu'un dont on peut dire, il est sûrement plein, dont on peut sûrement lui adresser plein de reproches, je ne le connais pas, mais on ne peut pas dire qu'il est incompétent. C'est à la fois un énarque, c'est bien que ce n'est pas nécessairement un gage d'intelligence, mais enfin, il est normalien, parce qu'il est quand même un minimum cultivé, cet homme-là. Il a été nommé, sa candidature a été appuyée par M. Cazeneuve, le ministre socialiste. Il a été choisi parmi 63 candidats. Donc c'est quand même quelqu'un. Et puis, il est resté à son poste pendant 7 ans. Mmh. On a quadruplé son budget. Donc si ça n'allait pas du tout, on se demande bien pourquoi. Voilà. Et puis en plus, s'il y avait vraiment des choses substantielles, on les aurait trouvées. Maintenant, vous avez raison, il y a une autre question qui est mise en avant, c'est est-ce que ce n'est pas le seul énarque du Rassemblement National ? Alors j'ai regardé, pas tout à fait. Donc il y en a eu dans le passé, ils sont partis. Il y a Philippe Liotot, qui est le député du Var, et il y a Christophe Bay, qui était le directeur de campagne de Marine Le Pen. Ça ne fait pas beaucoup, et souvent c'est un argument qui est mis en avant pour dire, regardez, il n'y a pas beaucoup d'énarques, donc quand même, il y a un soupçon d'incompétence dans ce parti. Bon, on pourrait répondre, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont nommé des énarques à leur tête et qui s'en sont repentis, mais passons. Il y a même des républiques, d'ailleurs, où c'est arrivé, ça ne s'est pas nécessairement très bien passé. Donc ce n'est pas nécessairement un gage, disons, automatique de compétence de sortir de l'énarque. Mais surtout, c'est le fait que les énarques ne peuvent pas s'afficher officiellement, en quelque sorte. Il y a probablement des énarques qui soutiennent, des hauts fonctionnaires qui soutiennent le Rassemblement national. Ils le font notamment dans un club d'après le Rassemblement national, qui s'appelle les Horaces. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ça est intéressant. Ils ne le font pas parce que s'ils le font, leur carrière ensuite administrative est brisée. Et s'ils le font, ils ne peuvent même pas d'ailleurs trouver du boulot dans le privé. Donc c'est quasiment la mort sociale. Et là, c'est une assez mauvaise nouvelle, disons pour les rivaux de Jordan Bardella, que M. Leggeri ait choisi de rallier le RN plutôt par exemple que Reconquête ou plutôt que LR, notamment LR, parce que LR lui a fait des avances. Apparemment, M. Retailleau voulait le placer aussi dans sa liste en très bonne position. Mais il a été au RN, pourquoi? Parce que justement, à cause de ce risque de mort sociale. C'est le vote utile, en fait, qu'il a mis au RN. Parce qu'il est sûr que le RN va dépasser les 5%, et donc il est sûr de pouvoir finalement rebondir. Parce qu'une fois qu'il a fait son outing pro-national populiste, eh bien, c'était foutu pour lui.
LR et Reconquête doutent que le RN puisse changer l'Europe de l'intérieur, car même s'ils ont beaucoup d'élus, ils appartiennent à un groupe parlementaire européen moins puissant que le leur. Qu'en pensez-vous ?
Ben, c'est vrai. D'abord, c'est un argument qui est tout à fait vrai. Le RN, a priori, est rallié à un groupe qui s'appelle ID, qui n'était pas du tout un groupe charnière ou un groupe majoritaire au sein du Parlement européen, alors que LR appartient au PPE, qui est un groupe vraiment conséquent et très important. Et c'est aussi le cas pour Reconquête. Il pourrait rejoindre le groupe ECI, auquel se raccroche le parti de Giorgia Meloni. Mais est-ce que c'est un gage de pouvoir changer l'Europe de l'intérieur? Rien n'est moins sûr. Le PPR, par exemple, vote souvent avec Renaissance et en faveur de la Commission européenne. Donc en matière de changement de l'Europe, là, il pourrait y avoir aussi un double discours. Quant à ECI, et l'exemple de Giorgia Meloni est intéressant parce qu'elle s'est quand même couchée devant la Commission européenne et elle a accepté 425 000 migrants jusqu'en 2025 dans son pays. Donc, bon, l'argument suivant lequel il y a un vote utile à l'échelle européenne, c'est un argument qui pourrait se discuter sans aller jusqu'à dire que ces partis sont des idiots utiles de la construction européenne. En tout cas, ils font comme si c'était un véritable Parlement. Déjà, ces groupes parlementaires, ils sont totalement inconnus des électeurs. Personne ne les connaît, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas du tout de démocratie au sens de peuple. Vous savez qu'il y a une abstention massive pour les élections du Parlement européen partout en Europe. Et donc, on fait comme si c'était un Parlement. Mais c'est un peu un Parlement en carton. Je rappelle qu'ils n'ont pas de pouvoir d'initiative. Et que, finalement, leur capacité de changement de l'Europe, la capacité de changement du Parlement européen dans l'équilibre institutionnel européen est très faible. Et donc le ralliement de Leggeri, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que ça montre finalement que le Rassemblement national n'est pas hostile au principe même de la construction européenne, n'est pas hostile à l'Europe. La preuve, ils ont recruté quelqu'un qui était quand même qui occupait des fonctions éminentes au sein de l'Europe. Mais par contre, ils ne sont pas naïfs sur la capacité de l'Europe à se réformer de l'intérieur. Et d'ailleurs, le RN, comme Reconquête, comme LR, comme je pense tous les gens sérieux, savent que pour agir sur l'immigration ou sur tout autre sujet, il faudra passer par la voie de la révision constitutionnelle et bien sûr pas la voie de l'Europe. Passer par la voie de l'Europe, dire qu'il va y avoir une autre Europe, c'est complètement fantaisiste. Ça veut dire parce qu'il faut changer les traités. Pour changer les traités, il faut qu'il y ait une unanimité des États. C'est quasiment impossible. Donc M. Leggeri est bien parti pour être l'égérie, si vous me passez l'expression, du Rassemblement national. Et en tout cas, peut-être a-t-il un profil de futur ministre de l'Intérieur.
Merci pour votre analyse. Je vous propose d'écouter ce petit sonore et réagissez hashtag face à l'info. Écoutez, et Marc Menon nous analyse tout ça dans un instant.
On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête. Et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeau satanique.
Marc Menon.
Et oui, il ne s'arrête pas là. Après, il insiste, il dit, c'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Ce sont vraiment des propos séditieux. Et il avait amorcé son prêche en disant, tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont tomber. C'est presque un appel donc, à l'attaque des États.
Alors, c'est Imam Majoubi, j'aurais dû le dire tout à l'heure, et oui. Ce qu'on a vu, c'était le 9 février sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, en direct, et forcément, ses propos ont été condamnés par exemple, le grand imam de la mosquée de Bordeaux, Terek Oubrou, également par Abdellah Zekri, qui est le vice-président du Conseil du culte musulman. Et forcément, il a cherché à se justifier ensuite. Alors il s'est confié à Objectif Gare. Il dit « Oh là 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 là, j'ai pas dit drapeau tricolore, en réalité c'est un lapsus, je voulais dire drapeau multicolore. Parce que moi, j'ai toujours défendu la République. J'ai organisé des marches lors des attentats de 2015. Je défends la laïcité. » Voilà ce qu'il dit. Alors vous avez vu qu'il est
quand... Il a du sang.
À Objectif Gare, un journal régional. Alors qui c'est ce monsieur ? Il a 52 ans. Il est né à Tunis. Il est arrivé en France en 1986. Quand on l'écoute, on a l'impression quand même que ça fait peu de temps. Vous avez vu, on ne peut pas dire qu'il y a une grande musicalité dans sa façon de prendre à sa charge la langue française. Alors, il a une entreprise de bâtiment qui est plutôt tenue par sa femme. Et puis également, il a les prêches à la mosquée dont il est responsable. Ça fait un moment quand même que certains dossiers le mettaient en question. Et soudain, il apparaît comme cela à la une de l'actualité. Alors on pourrait dire... Bon, c'est grave, mais ce n'est qu'un imam parmi les autres, ce qui est vrai. Sachant qu'il y a à peu près 20 à 30% d'imams qui sont de nationalité française ou qui l'ont acquise, mais donc qui sont français. Les autres viennent de l'étranger. Beaucoup de Turquie, enfin, sont patronnés par la Turquie, par l'Algérie et quelques-uns par le Maroc. Notons aussi qu'Aboukir, le 29 octobre, que s'est-il passé ? Ben, il y a un imam qui, lui, a fait référence à un hadith. Cet hadith disait « Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira « Ô musulmans, voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Ça, c'était 10 jours après l'attaque horrible contre Israël. Voilà cet homme qui a été condamné le 2 novembre à 8 mois de prison avec sursis. Alors tout ça, forcément, c'est le problème d'un islam qui se différencie, qui est fragmenté. Il y a les musulmans qui sont citoyens, qui tiennent à être véritablement français, qui apparaissent en tout anonymat dans notre société, qui ne revendiquent pas la prière dans les rues, qui les femmes vous font la bise, etc. Elles ne portent pas le voile. Et puis après, il y a l'antrisme. L'antrisme qui est mené par les frères musulmans et par les salafistes. Et là, eh bien, c'est de façon très très subtile. On les retrouve, eh bien, même dans le mouvement qui s'appelait d'abord l'UOIF et qui est devenu maintenant le mouvement des musulmans. Eh bien, ils sont sous l'influence des frères musulmans. Et il y a un lycée, par exemple, le lycée Averroès à Lille. Il a fait scandale il y a quelques semaines. Pourquoi ? Depuis 6 ans, Xavier Bertrand disait « c'est pas possible, il y a des cours qui sont contraires à l'esprit républicain, ce sont des cours qui remettent en cause nos valeurs. On ne peut plus accorder de subventions à ce lycée ». Un lycée qui avait été créé par qui ? Eh bien, par un mouvement de tendance frères musulmans, simplement parce qu'il y avait des jeunes filles qui refusaient de porter le voile. Alors on a créé un lycée uniquement pour elles, afin qu'elles puissent aller ainsi, selon leurs convictions profondes, en rupture avec ces valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est quand même oublié un texte que j'ai évoqué la semaine dernière. Théoriquement, la charte de la naturalisation. Quand vous vous dites que vous devenez français, vous prenez l'engagement de parler la langue française. Théoriquement, il devrait y avoir un test. Vous devez connaître l'histoire de France. Vous vous engagez à vivre selon les mœurs de la France, selon les conventions de la France. Donc, on devrait avoir ce principe de laïcité qui offre à notre pays la possibilité d'exister dans ses convictions les plus intimes sans avoir à avoir dans la rue au quotidien la moindre démonstration pour dire « je suis de telle ou telle tendance ». Ça éviterait d'avoir quoi ? eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui quand on a des sondages sur les jeunes qui vous disent à 65%, eh bien, pour nous, le plus important, c'est la charia. Pour nous, c'est d'être avant tout musulman. On se moque de la loi française. Ils refusent d'assister à certains cours. Ils veulent imposer leur façon d'être dans les cours de sport, etc. etc.
65%, etc. C'est quel sondage, ça, mon chéri?
C'était les sondages, il y en a eu plusieurs qui se recoupaient. Pourquoi je crois qu'il y en a eu un, d'ailleurs, qui était de CNews. Il y en a eu un dans Figaro, etc.
Je vais en donner un autre tout à l'heure.
Oui, d'accord. Mais enfin, bref, il y a cette tendance chez les plus jeunes à se mettre en rupture de la République, à ne pas vouloir entrer dans cet accueil qui leur est offert, alors même qu'ils sont pour la plupart, eh bien, français dès leur naissance, puisque leurs parents étaient déjà sur le sol.
Alors, on apprend dans un communiqué de presse que le recteur de la Grande Mosquée de Paris condamne fermement les propos de Majoub Majoubi qui vont, je cite, à l'encontre des principes fondamentaux de coexistence pacifique et de respect mutuel et des valeurs prônées par l'islam. Et je vous montre aussi un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. 92% des Français estiment qu'il faut expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français. Rappelons que vous l'avez dit, il est né en Tunisie, il est marié avec une femme française.
Il est en France depuis 38 ans.
Il a 5 enfants français. C'est Gérald Darmanin a dit qu'il va l'expulser. Ça va être compliqué. On peut peut-être le dire déjà au ministre de l'Intérieur que ça va être compliqué.
Je pense qu'il le sait. Hein.
Vous pensez
bon, il était en train de faire les démarches pour le renouvellement de sa présence en France.
Mais la démarche elle-même, c'est les enfants qui vont poser problème. À chaque fois, c'est la question. Alors, c'est vrai qu'il a soulevé certaines des protections dans la loi.
Oui.
Mais à mon avis, il va falloir beaucoup de gens pour travailler sur le dossier en particulier.
Mathieu Bocoté, une réaction par rapport à Majoub Majoubi, l'imam?
Il existe une telle chose qu'une haine anti-française décomplexée en ce pays. Je pense que c'est un fait qui est exposé devant nous. Et l'argument du finalement, je détestais pas le drapeau français, je détestais le drapeau LGBT, parce que finalement, c'est ce qu'il nous dit, c'est pas plus recevable, si je peux me permettre. C'est-à-dire, le drapeau, c'est des satellites. On peut satelliser. En ce, par ailleurs, on voit c'est quoi l'imaginaire de ces gens. Ils incarnent le bien, et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas avec eux, c'est le diable.
Si je puis me permettre, pour être exact, il dit qu'il faisait référence à la Coupe d'Afrique de football où les drapeaux étaient de toutes les couleurs.
D'accord.
Voilà. Non, je tiens à le dire qu'il n'y a pas de confusion.
Alors, juste avant votre chronique, Charlotte Dornelas, je vais vous faire éruter un petit sonore. Mais je ne sais pas si vous aurez le temps de réagir. Et je ne sais même pas si on a besoin de réagir. Mais je vous le ferai écouter quand même. Ça vaut le détour. Mais on parlera avec vous, Charlotte, de la Mayotte et de la Russie qui se dit qu'elle est prête à aider les Comores à récupérer Mayotte. Intéressant. Étonnant, non? On en parle dans un instant. Regardez d'abord Louis Boyard.
Ministre Borne, ils n'ont pas 289 députés. Ils n'ont pas la majorité. Donc du coup, pour faire passer une loi, c'est la galère.
Est-ce que, d'après toi, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal?
On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, on va faire un changement dans la Constitution ». L'article 11, où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qui...
L'article 11, c'est pas très bien.
Moi, j'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, l'article 11, c'est le référendum. C'est le référendum législatif.
C'était une visite de Louis Boyard le 3 novembre 2023 à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, dans le campus de Villetaneuse. Une petite réaction, peut-être.
C'est la bordélisation dans leur cerveau, je pense, surtout. C'est de bordéliser l'Assemblée, il faudrait déjà remettre de l'ordre dans leur tête.
Il a improvisé son cours de droit constitutionnel aux étudiants, puis il s'est fait humilier par plusieurs d'entre eux. Passons à autre chose. Charlotte Dornelas, on a évoqué la question de Mayotte la semaine dernière à plusieurs reprises. Et si Gérald Darmanin a annoncé de nombreuses mesures qui ont fait réagir, on est toujours au stade des annonces, rappelons-le. La situation n'est pas réglée pour autant. D'abord déjà, que sait-on de ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, à l'heure qu'il est?
C'est vrai qu'on a l'habitude de voir une situation subitement. Déjà, on a mis du temps à la voir médiatiquement ici. Oui. Gérald Darmanin s'est déplacé. Il a fait des annonces qui ont fait plus réagir que la situation à Mayotte. Hein, on en a parlé. Heureusement, Estelle Youssoufa est passée par là et a distribué un peu quelques claques pour remettre l'église au milieu du village. Bon. Et depuis, bon, bah, la séquence mahoraise est terminée comme si tout était réglé.
C'est ça.
Or, en ayant accès à la synthèse, vous savez, les forces de l'ordre, ils font des synthèses régulièrement de ce qui arrive. Et simplement, ce week-end, vous voyez, alors bon, là, je vais prendre quatre villes en exemple, hein, je ne peux pas raconter tout ce qui se passe, mais vous avez Tsingoni, 15h10, c'est les heures qui m'ont fait vraiment, qui ont retenu mon attention. 15h10, une soixantaine de jeunes s'affrontent en s'en prenant aux passants, intervention des forces de l'ordre, retour au calme à 17h30. Kungu, 16h15, une trentaine de jeunes armés de barres de fer qui sont signalés, affrontement avec les militaires, barrage établi, retour au calme à 21h30. Ou Wangani, 17h20, une soixantaine de jeunes s'affrontent en s'en prenant aux automobilistes, ils installent des barricades, ils bloquent les axes, retour au calme, une heure plus tard, 18h30, Mamoudzou, 17h20, une cinquantaine de jeunes munis de machettes, etc. etc. Donc vous avez, ça commence à 15h10. Donc quand les habitants vous expliquent qu'à partir de 16h, ils ne peuvent plus sortir de chez eux, c'est en raison de ces bandes qui vont ici et là, en effet, sur l'île, et qui bloquent les axes, qui attaquent les passants, qui attaquent les routes à des heures, donc au milieu de l'après-midi, évidemment. Elles s'appellent elles-mêmes ces bandes, elles se surnomment elles-mêmes les racailles ou les terroristes, hein, selon... Donc on comprend qu'il y a la question de l'immigration qui a été très abordée par le biais de l'intervention et des annonces de Gérald Darmanin, mais il y a l'immense question de l'insécurité qui demeure évidemment toujours aussi grande. Et ces bandes, elles mobilisent énormément les forces de l'ordre qui sont présentes à Mayotte, qui ont été augmentées ces dernières années, d'accord. On a 15 personnes du GIGN qui sont arrivées avec Gérald Darmanin pour renforcer la présence, notamment là en l'occurrence des gendarmes. Mais le directeur général de la gendarmerie nationale, qui a fait pas moins de 2 déplacements ces derniers temps à Mayotte, il expliquait que pour identifier d'éventuels commanditaires de ces attaques de bandes, ils avaient solidifié, on va dire, le travail d'enquête. Donc lui était en train de dire, il n'y a pas juste des bandes, parce que vous entendez certains qui commentent en disant, bah oui, mais ils sont pauvres et ils n'ont pas à manger, donc ils raquettent pour pouvoir manger. Alors ça arrive forcément, et évidemment, cette dimension-là joue dans une île extrêmement pauvre. Mais Estelle Youssoufa, dont nous avait parlé Guillaume, avait dit, vous êtes gentils, on est tous pauvres et on ne tue pas tous nos voisins avec des coups de machette. Déjà, pour commencer, bon, c'est une évidence, mais il faut le rappeler à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est que là, en l'occurrence, les gendarmes, en faisant ce travail d'enquête, vous dites, il y a potentiellement des commanditaires qui, eux, ne sont jamais pauvres, qui, eux, ne subissent jamais la violence, on les connaît par cœur, c'est la même chose dans le trafic de drogue, et qui mettraient ces bandes à leur profit pour la guerre de territoire au sein de Mayotte. Donc là, on voit qu'on a une question de grand banditisme dans la délinquance extrêmement violente qu'il y a sur le terrain. Et les conséquences de tout ça, elles sont évidemment évidentes et elles n'ont pas changé la semaine dernière. Vous avez des écoles qui ferment, des classes qui ferment, des profs qui exercent leur droit de retrait, évidemment. Les parents qui ont parfois peur d'emmener leurs enfants, déjà de les emmener physiquement et de les ramener, mais surtout de savoir ce qui va se passer dans les écoles parce qu'il y a des attaques régulièrement aux abords des écoles. Alors là, la gendarmerie dit que ça va beaucoup mieux qu'avant dans les transports et dans les écoles, mais ça existe encore. Les personnels médicaux qui sont appelés à finir dans les hôpitaux à 15h pour pouvoir repartir, alors qu'ils sont déjà en sous-effectif avec évidemment une population qui déborde, ça on en a parlé. Par ailleurs, là, il y avait un patron qui racontait, c'était dans le Figaro, dans un reportage, qu'il était obligé le soir de ramener chez eux le personnel de son hôpital parce qu'il n'y a plus de taxi la nuit pour les mêmes raisons. Enfin, vous voyez, en fait, vous prenez le fil et vous vous dites c'est un cauchemar absolu de bout en bout en permanence. Ajoutez à ça, évidemment, la crise de l'eau et de l'accès à l'eau et, dernière bonne nouvelle, des risques d'une détection de choléra aux Comores ces derniers temps. Choléra qui donc se transporte potentiellement par les gens qui continuent à arriver, parce qu'il y en a qui continuent à arriver, jusqu'à Mayotte, question qui n'a pas été abordée, alors que le choléra c'est quand même vaguement une question sanitaire importante. Donc évidemment, et par ailleurs c'est pas une attaque là envers Gérald Darmanin ou Marie Guévenoux qui est la ministre des Outre-mer, parce que évidemment les annonces n'ont pas des conséquences, des effets, on va dire 48 heures après, mais faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que le sujet a disparu des médias
Lydia.
La situation va mieux pour les Mahorais, évidemment.
Et c'est important pour nous, effectivement, de le rappeler. Mais justement, Charlotte Dornelas, quel suivi de ces annonces et que promet la suite?
Alors, rapidement, mercredi dernier, les deux ministres qui étaient présents sur place, donc justement Darmanin et Guévenoux, ont annoncé que la présentation du projet de loi d'urgence se ferait en Conseil des ministres le 22 mai prochain. Alors, bah, c'est toujours comme ça, hein, les lois d'urgence le 22 mai, on se dit, bon, les pauvres Mahorais, d'ici là, c'est compliqué. Et par ailleurs, Madame Guévenoux, donc, qui est la ministre des Outre-mer, a promis un retour sur l'île pour discuter notamment avec les collectifs, à condition que les barrages citoyens, cette fois-ci, soient levés. Alors évidemment, il y a cette impression d'un deux poids, deux mesures permanent. Quand vous vivez avec des barrages en permanence pour vous racketter, pour vous empêcher de rentrer chez vous, pour vous empêcher d'aller au boulot, et que vous mettez en place des barrages pour essayer de vous faire entendre, et qu'on vous dit, bah, on viendra vous voir et parler avec vous, à condition que vous leviez ces barrages-là, alors que vous souffrez des autres depuis extrêmement longtemps. Forcément, c'est évidemment un peu compliqué. Et par ailleurs, il y a une opération Wombushu 2 qui a été lancée, hein, donc lutte contre l'immigration illégale avec le fameux mur de fer dans la mer qu'a annoncé Gérald Darmanin, donc la mise en place de bateaux censés empêcher le passage de ces kwassa-kwassa, et évidemment lutte sur la question des bidonvilles et de l'insécurité, avec toujours au milieu cette question de 1. Comment est-ce qu'on empêche réellement les arrivées, parce qu'elles continuent à exister? Comment est-ce qu'on empêche des arrivées alors qu'il est interdit de refouler quand il y a une demande de droit d'asile potentiel, puisque c'est la question qui n'a pas été évoquée? Qu'est-ce que vous faites du stock, pardon pour le mot, mais du stock de personnes qui sont aujourd'hui dans les Comores? Et par ailleurs, une fois que vous avez abordé toutes ces questions, qu'est-ce que vous faites de la question strictement sécuritaire, évidemment à Mayotte, qui ne peut pas se régler que par une surprésence de forces de l'ordre? Et juste pour vous donner une idée, là aujourd'hui, à la préfecture de Mayotte, il y aurait 290 000 demandes de titres de séjour à la préfecture en cours. On a une population de 350 000 selon l'INSEE, 450 000 selon les personnes sur place. Et le préfet qui vient d'être remplacé, on va dire, pendant la séquence, il expliquait la semaine dernière que, par exemple, il avait un dossier là avec un homme qui avait reconnu 40 naissances dans l'année qui venait de se passer. Donc vous voyez qu'il y a cette question des faux certificats qui est évoquée par Gérald Darmanin. Bref, vous voyez que c'est une montagne pour essayer de régler le problème à Mayotte. Certaines choses ont été annoncées, mais il reste énormément de travail.
Un homme 40 naissances. C'est dernier. La santé, hein.
Mais probablement c'est plus des faux.
Des problèmes de papier.
Vous avez bien compris.
Ces derniers jours, Charlotte Dornelas, Vladimir Poutine a par ailleurs proposé son aide aux Comores. Très intéressant pour récupérer Mayotte. Comment comprendre cette nouvelle donne?
Alors, bon, évidemment, il y a la poursuite de l'entreprise de déstabilisation qui est voulue par Vladimir Poutine, notamment vis-à-vis de la France. On a énormément parlé du sujet de l'Afrique ces derniers mois. Bon, là, il saute sur le sujet comorien. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'il faut essayer de comprendre quelle est cette question, quelle est la relation des Comores à la France et notamment sur le terrain de Mayotte. Il y a quelques jours, donc, Gérald Darmanin a annoncé la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Et ça a fait immédiatement réagir les Comores qui, vous savez, surfent sur le sentiment anti-français de manière assez régulière, notamment en gestion de politique interne. On connaît ça ailleurs, mais c'est vrai aussi dans les Comores. Le porte-parole du gouvernement, je le cite, il dit « Nous continuons et nous continuerons à revendiquer, conformément au droit international et conformément à la réalité culturelle, que Mayotte fait partie intégrante des Comores. » Donc il dit ça, en l'occurrence, il pointe le refus à ce moment-là par la France d'appliquer le droit international qui est d'ailleurs rappelé assez régulièrement par les Nations Unies depuis le premier jour. Et évidemment, les Comores, elles disent « si vous supprimez le droit du sol », évidemment, c'est un atout aussi pour le gouvernement comorien. Vous savez, ça aussi, on l'a vu dans d'autres pays. Hein, quand vous pouvez dire, vous allez trouver à Mayotte ce que vous n'avez pas dans les Comores, c'est aussi un moyen de régulation politique interne. Si vous n'avez plus ça, eh ben, la guerre recommence. Et dans les faits, Mayotte, alors on ne va pas revenir sur l'histoire ancienne, mais Mayotte n'a cessé de vouloir son rattachement à la France depuis extrêmement longtemps, bien avant que se pose la question de l'indépendance. C'était un protectorat français. Bien avant que se pose la question de l'indépendance, Mayotte, déjà, contrairement aux autres îles de l'archipel, voulait rester attachée à la France. En 58, il y a un transfert de l'Assemblée territoriale sur l'île de Grande-Comore, précisément parce que Mayotte est plus attachée à la France qu'à l'archipel des îles. En 75, vous savez, il y a ces référendums. Seuls les Mahorais sur les quatre îles votent non à l'indépendance. Mais comme le reste des trois îles vote oui à l'indépendance, normalement, en droit international, vous ne cassez pas un archipel. C'est absolument interdit. Mais la France, à ce moment, donc c'est au nom de l'intangibilité des frontières, vous ne cassez pas l'archipel. Mais la France, elle, parle à la place de l'intangibilité des frontières, elle parle, elle, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle fait revoter Mayotte seule pour pouvoir garder l'île dans son giron. Au fil des années, l'ONU qui a systématiquement condamné, elle n'a jamais reconnu la souveraineté de la France sur Mayotte. Au fil des années, ça s'est un peu calmé, on va dire. Depuis 1996, les Comores n'inscrivent plus systématiquement à l'ordre du jour des Nations Unies cette question de la souveraineté sur Mayotte. Mais la France a systématiquement opposé aux Comores, on va dire, l'avis du peuple contre celui des instances internationales sur la question du droit international. Donc vous comprenez bien que là, quand les Comores se disent « on a un moyen d'attaquer la France et on veut récupérer Mayotte », Vladimir Poutine, étant donné ce qui lui arrive, lui, sur la question ukrainienne, saute sur l'occasion. Ça fait une occasion de plus d'attaquer la France et en plus de noter que le droit international est parfois un peu à géométrie variable.
À suivre, absolument. Merci Charlotte pour ce développement. C'est une nouvelle improbable, ou du moins qui frappe l'imagination. Mathieu Bocoté en a voulu nous apprendre ces derniers jours qu'une femme trans, c'est-à-dire un homme biologique, peut produire pour un enfant un lait aussi valable que le lait maternel.
Qu'est-ce que
c'est que cette histoire?
J'ai eu la même réaction. J'ai lu la nouvelle une fois, deux fois, trois fois. Je me suis dit, je ne suis pas fou, je lis vraiment ça. Alors, je vous donne le contexte. C'est un texte paru dans le Daily Mail, qui est un journal anglais, et dont l'écho, on l'a eu au Québec. On en a parlé donc, sur le site de TVA Nouvelles. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça remonte, je précise, donc c'est un texte de ces derniers jours, mais ça remonte en 2018, où on commence à parler de ça. Si j'ai fouillé un peu aujourd'hui, on commence à dire, pour que la révolution des droits des trans soit complète, il faut qu'un homme biologique devenu femme, donc une femme trans, puisse
pouvoir allaiter.
Il, elle, y elle, yul, yol aussi, je ne sais plus comment dire, hein, donc qu'il, elle, puisse aussi donner le sein et allaiter. Parce que c'est un droit fondamental, Christine, que de donner le sein lorsqu'on est une femme trans. Oh oui. Alors, quand vous avez ça, ça progresse dans l'opinion. Et je note, il y a une étude en 2018 dans la revue Transgender Health, la santé des transgenres, qui disait que c'était possible. Alors là, on arrive, 2024, dans un hôpital d'une université britannique, le directeur, il y a un courriel qui a fuité, un message, en disant « le lait d'une femme transgenre est de même qualité pour un enfant, c'est aussi nourrissant, la même qualité qu'un lait maternel. » Alors, même chose. Donc, ne vous souciez, que ce soit le lait maternel, comment le produire, évidemment, il faut que la personne trans soit boostée, pardonnez le terme, aux hormones, des hormones très particulières, pour être capable de produire le lait nécessaire. Alors, dans un monde qui se veut bio, je ne sais pas quoi penser du lait boosté aux hormones. Mais je reviens sur le point central. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, c'est toujours ce dont on parle ici, la radicalisation de la fameuse théorie du genre. C'est-à-dire, on a aboli le corps sexué, on a aboli l'homme et la femme, on a aboli le père et la mère, on est dans un monde où une femme peut avoir un pénis et un homme avoir un vagin, on est dans un monde où un homme peut décider d'aller chez son gynécologue et une femme dire « zut, j'ai le cancer de la prostate ». On est dans un monde comme celui-là, ben, le point d'aboutissement dans l'interchangeabilité des sexes, si je décrète que je suis femme, eh bien j'ai l'appui, on produit l'homme nouveau en laboratoire. Aujourd'hui, au 20e siècle, on a voulu le produire avec des idéologies comme le socialisme, le communisme. Aujourd'hui, c'est en laboratoire, on produit véritablement l'homme hormonalement modifié, l'être humain hormonalement modifié qui peut donner le lait requis. Et ce qui est intéressant, donc, dans cette espèce de moment lysenkiste, on nous dit c'est la science. La science prouve que le lait de la femme trans est aussi valable que le lait maternel d'une femme.
Vive les Lumières.
Ancien modèle. Oui. Et il y a une réaction d'une députée britannique qui n'est pas mauvaise, franchement. Une travailliste, pense, c'est encore plus original. Lorsqu'un homme n'a pas pu... encore mieux, je vous la cite encore une meilleure phrase. Les bébés ne peuvent pas servir de cobaye pour le choix de vie de quelqu'un d'autre. Le lait maternel produit par la mère biologique d'un bébé est fait sur mesure pour ce bébé. Mais puisqu'on a décrété que les sexes n'existaient pas, le corps n'existait pas, que tout était purement construction sociale, puisqu'on a décidé que la généalogie n'existe pas, la biologie n'existait pas, le corps anatomique est une carcasse réactionnaire à balayer de la scène de l'histoire, eh bien vous pouvez aussi dire finalement ces deux laits sont équivalents. Vive Lysenko.
Et je rappelle qu'on parle souvent de ces sujets parce que ça arrive en puissance chez nous.
Mais bien sûr.
Dernière question, qu'est-ce que cela dit de notre rapport aux enfants?
Que nous sacrifions nos enfants au dieu progrès. Il faut leur progrès, le progrès assimilé à la théorie du genre puis à l'idéologie transradicale. Faut comprendre, là, les enfants sont sacrifiés, les enfants servent de cobayes, les enfants servent de fantasme, de support au fantasme du monde adulte. Les enfants, on leur dit finalement, vous serez la première génération à être testée pour permettre à ceux des adultes qui veulent cette expérience de mutation, eh bien, les enfants seront désormais les cobayes et les supports des fantasmes du monde adulte. Et la science, et la médecine, et une partie des pharma, et le complexe technopharmaceutique, disons ça comme ça, se met au service de ce projet. Je suis persuadé que les ressources médicales et scientifiques utilisées pour rendre cela possible ne pourraient pas être utilisées autrement. Ça me semble évident.
Vous avez été allaité, vous?
À part ma mère, une sainte femme.
Excellente suite de programme. Merci à tous. Tout de suite, l'heure des Pro 2 avec Pascal Pro. Merci.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.